un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Tout à son entreprise de tabula rasa, la Révolution française abolit naturellement toutes les décorations et distinctions honorifiques traditionnellement remises sous l'Ancien Régime. Quelques années plus tard, le premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, décide cependant d'en imaginer une toute neuve et plus dans l'air du temps. Le 19 mai 1802, il crée ainsi la Légion d'honneur qui deviendra la plus haute décoration honorifique française pour récompenser militaires et civils ayant rendu des services éminents à la nation, mes soldats et mes savants, dit-il. Mais lorsque Napoléon lance l'idée, résume le site Wikipédia, certains, comme son ministre de la guerre, persiflent et s'obstinent à considérer que les décorations mettent à mal le principe d'égalité civique, qu'elles constituent, dit ce dernier, des hochets de la monarchie. Bonaparte se justifie alors en Conseil d'État avec ce mot « vous les appelez les hochets, eh bien c'est avec des hochets que l'on mène les hommes ». Depuis, on ne cesse de gloser sur ceux qui l'ont reçue et ne la méritent pas, sur ceux qui la méprisent et la refusent, comme Jean-Paul Sartre ou récemment l'économiste Thomas Piketty qui a déclaré « Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable ». On évoque plus rarement ceux qui la méritent et ne l'ont jamais reçue et ceux qui la rendent de manière plus ou moins spectaculaire. Voici donc trois histoires par Timothée de Roglaudre.
Je suis Raphaël Pitti, je suis médecin anesthésiste-réanimateur, je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, plus spécialisé en médecine du guerre du fait de ma carrière militaire. J'ai participé à pratiquement toutes les situations de crise qu'a traversé notre pays, que ce soit en guerre du Golfe, en Afrique ou en ex-Yougoslavie par exemple. Et donc dans l'action humanitaire, je suis essentiellement chargé de la formation des personnels soignants dans ces zones de guerre, en Syrie, avec quatre centres de formation, ensuite en Ukraine. Et là, nous sommes très impliqués, bien évidemment, dans la situation de Gaza. Et puis, je suis conseiller municipal depuis 2014 à Metz, où j'habite. Et donc, la première mandature, j'étais en charge des urgences sanitaires et sociales. Et il y avait matière à avoir urgence sanitaire et sociale vis-à-vis des migrants, puisque Metz reçoit entre 5000 et 7000 demandeurs d'asile par an, et qu'il n'y a bien sûr pas assez d'hébergement pour eux quand ils arrivent, et qu'ils se retrouvent dans la rue. Et dans cette situation-là, avant 2018, ils étaient dans un parking où il y avait plus de 1000 personnes dans ce parking, avec femmes, enfants, etc., personnes âgées, malades aussi. Donc c'était une situation de violence qui était inexcusable dans notre pays, et ça m'a engagé Visamment dans la défense, en disant « si nous recevons, s'ils rentrent, s'ils sont là, il faut que nous puissions accueillir avec dignité ces personnes qui sont là ». J'ai moi-même, lorsqu'il y avait eu la guerre d'Algérie, en juillet 1962, il y a eu un mouvement migratoire lié à une situation de panique. Les Français d'Algérie ont eu peur éventuellement de ce qui allait se passer après l'indépendance. Ils ont fui en masse et je faisais partie de cette masse avec ma mère et mes sœurs. Nous sommes retrouvés avec nos valises sur un bateau, arrivés à Marseille, la Croix-Rouge, etc. Dans une situation relativement compliquée, difficile aussi, précaire. En enfant que j'étais, cela m'a marqué d'une manière assez importante pour le reste de ma vie. Et je sais ce que ça veut dire que d'être réfugié, d'accord, et de perdre tous ses repères. Il faut savoir aussi que j'étais allé trois fois de suite à Lampedusa avec l'ordre de Malte et que je participais au secours en mer sur les bateaux des gardes-côtes italiennes. Et donc, je savais aussi la situation, les difficultés de ces populations, ce qu'elles avaient vécu durant leur traversée. Et donc, tout cela me portait à les défendre. De ce fait, en 2015-2016, lors de la crise migratoire, ces Syriens qui étaient en Turquie, je les avais vus, je savais ce qu'ils avaient subi en Syrie. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un vrai problème. L'Europe n'était pas prête à les accueillir et ne voulait pas les accueillir. L'Europe est en train d'exploser s'il n'y avait pas eu la présence de Mme Merkel pour, à un moment donné, régler ce problème. Et j'étais très impressionné par Monsieur Macron, durant sa campagne électorale pour la présidence de la République. Il avait dit « Madame Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe et la France y prendra sa part, bien évidemment, dans la dignité des personnes ». Et donc, le discours de M. Macron m'a paru à ce moment-là un discours humaniste. Et donc, je me suis rapproché de ses conseillers. Et j'ai proposé un secrétariat d'État à l'accueil et l'intégration sous l'égide du Premier ministre. Et les conseillers m'ont reçu assez favorablement, en disant « oui, c'est une très bonne idée, ça donnerait une image et ça serait dans l'efficience ». Donc en 2017, après les élections d'Emmanuel Macron comme président, au mois de juillet, est parue au journal officiel la liste des personnes qui avaient été élevées au grade de chevalier et d'officier ou bien à des grades supérieurs de la Légion d'honneur. Et je faisais partie de ceux qui avaient été élevés au grade d'officier de la Légion d'honneur. J'ai même reçu à ce moment-là le décret en question signé d'Emmanuel Macron sur lequel il avait écrit de sa main et on continue, on continue. Alors, en termes de récompenses, j'en ai un certain nombre, dirons-nous. Je suis officier de l'Ordre national du mérite et je suis chevalier de la Légion d'honneur, la médaille de la libération du Koweït. J'ai un certain nombre de décorations militaires, de courage, de dévouement, etc. Enfin, j'en ai à peu près 11 de médailles. La plupart des décorations que j'avais eues par le passé étaient plutôt en rapport avec l'action militaire, en particulier l'action dans les zones de guerre qui avait été la mienne, ou dans des activités plutôt de médecine de catastrophe auxquelles j'avais participé aussi, dans le soutien sanitaire, etc. Donc j'avais des décorations qui étaient plus en rapport avec une action médicale dans des situations de conflit. Là, ce grade qui m'était donné mettait en avant plutôt l'action humanitaire proprement dit, de formation dans les zones de guerre, etc. Et donc c'était bien différent au fond que des autres décorations. C'était pas la même chose. Pour la remise, j'étais dans la voiture avec le maire de Metz. Nous rendions à une réunion et je l'accompagnais. Et le maire de Metz me dit « Écoute, si tu es d'accord, j'aimerais bien te remettre cette décoration et nous pourrions la faire à la mairie. » Voilà. Or, de toutes les décorations que j'ai eues, ça s'est toujours fait dans la discrétion. Sauf chevalier de la Légion d'honneur, où il y a forcément une remise un peu avec prise d'armes, etc., dans l'armée. C'était la seule décoration qui m'avait été donnée dans un cadre un peu officiel, là. Pour cela, c'est le maire qui m'a proposé de le faire à la mairie, qui m'a valu en même temps de faire venir ma famille, etc., des amis qui étaient là en même temps. Et ça a été essentiellement organisé par la mairie de Metz. Moi, j'étais plutôt satisfait de me dire, c'est la preuve que ce que je faisais dans l'action humanitaire, etc., m'avait quelque part identifié. Enfin, le fait d'avoir reçu, c'était par rapport à l'action humanitaire qui était la mienne, et de dire « on continue », nous étions donc dans cette logique de mettre en place une politique de l'accueil, etc. Mais après, la réalité n'était pas celle-là. À partir du mois de novembre, le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de décisions vis-à-vis des demandeurs d'asile en particulier, qui étaient, à mon sens, extrêmement coercitifs vis-à-vis de cette population qui arrivait. D'abord, ça a été le fait qu'il ait réuni l'ensemble des associations de solidarité au niveau de son ministère pour leur demander, quelque part, de dénoncer toutes les personnes en situation irrégulière qui se trouvaient dans les centres d'hébergement. Il y a eu ça. Après, il y a eu le délit de solidarité inventé par ce ministre poursuivant tous ceux qui aidaient les demandeurs d'asile dans les montagnes, en particulier dans les Alpes. Et donc, les voilà qu'ils étaient condamnés, poursuivis par la justice. Ça aussi, c'était vraiment scandaleux. C'était pas ce que j'attendais de ce gouvernement. Et heureusement que le Conseil d'État a retoqué cet arrêté en considérant que c'était plutôt un geste de fraternité qu'un délit de... Et j'ai été profondément choqué, justement, de cela. Et aussi, j'ai demandé au maire de Metz, en particulier, d'écrire au ministre de l'Intérieur de l'époque pour lui dire que nous avions ce camp, que ce camp était inacceptable, etc. Et celui-ci a répondu que c'était un camp sauvage, qu'il avait contacté le préfet et ses services. Et donc, il donnait l'ordre aux forces de l'ordre de démanteler ce camp. La réponse du ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était celle-là. Voilà, donc le gouvernement tel qu'il avait promis, M. Macron avait promis avant, ne répondait pas, en tous les cas, dans les espérances que j'avais mis en lui. Et alors, c'est au cours donc d'une émission télévisée où on a reparlé de cette problématique migratoire, j'ai senti le besoin de dire à ce moment-là, je ne cautionne pas cette politique migratoire du gouvernement de M. Emmanuel Macron. C'est parce qu'il avait dit avant son élection. Et donc, du même coup, je lui rends le grade qu'il m'a donné d'officier de la Légion d'honneur, car manifestement, nous n'avons pas le même sens de l'honneur, M. Macron et moi. Et je lui ai rendu. Alors, un des conseillers que j'avais vu avant les élections de M. Macron, avec qui j'avais discuté et en particulier présenté ce projet d'un secrétaire d'État à l'accueil et l'intégration, m'a téléphoné en me disant « mais c'est grave ce que vous avez fait vis-à-vis du président de la République, etc. Mais c'est peut-être bien que nous puissions en parler et donc si vous êtes d'accord, nous pourrions nous voir à l'Élysée ». Je suis allé à l'Élysée, j'ai été reçu par lui et par une autre conseillère en charge des droits humains. Et j'ai exposé. Alors, j'ai exposé les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Et il s'est tourné à ce moment-là vers la responsable des droits humains en disant « Mais c'est vrai, on devait faire ça, pourquoi on ne l'a pas fait ?» Alors, elle répond « Parce que tout compte fait, on pensait plutôt en faire un chargé de mission. » Mais quand le chargé de mission, effectivement, ce poste a été créé, ce chargé de mission à l'accueil et l'intégration, d'abord il a l'accueil et l'intégration des demandeurs d'asile en situation régulière. Donc on était loin, d'accord, de l'accueil des demandeurs d'asile au sens large, de ceux qui venaient dans notre pays, qui devaient déposer un dossier, etc. On n'était pas du tout. Sur le plan de la Légion d'honneur, je pense qu'elle a perdu de son sens. Nous avons deux grades, il y a l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. Et je pense que ce soit au niveau de la culture, etc., tout cela relève plus de l'Ordre national du mérite que de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, dans mon esprit, relève plus du sacrifice, c'est-à-dire de quelqu'un qui a sacrifié quelque chose de sa vie, de son engagement, etc., pour l'honneur de la France. Et ça me semble plus important, qu'il y ait cette notion du sacrifice. Alors quand Schwarzenegger reçoit la Légion d'honneur, je ne vois pas en quoi Schwarzenegger s'est sacrifié pour la France.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Thiaba Bruni, je suis vice-présidente et porte-parole du CRAN depuis une dizaine d'années. Le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires de France. Alors, en janvier 2015, j'ai vécu en direct les événements, c'est-à-dire la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et donc, j'étais devant mon petit écran, comme tout à chacun, stupéfaite de ce qui se passait. Et puis, en fin de journée, j'ai entendu parler de Lassana Bathily, ce héros qui avait permis justement au GIGN de localiser Hamidi Coulibaly et d'intervenir et de sauver en fait les clients de l'hypercacher. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que Lassana Bathily, quand il est sorti en fait de l'hypercacher, alors qu'il venait d'aider le GIGN à intervenir et à mettre fin à cette prise d'otage, tout de suite en fait, il a été plaqué au sol par la police qui pensait qu'il faisait partie des auteurs de la prise d'otage. Alors, il y a eu ce premier incident et puis après, il a été interviewé et on nous l'a présenté. Moi, ce qui m'a surprise, c'est sa modestie. Il était musulman comme l'auteur de la prise d'otage et justement, ça permettait de dire que tous les musulmans n'étaient pas à mettre dans le même sac, que tous les musulmans n'étaient pas des djihadistes. Et ça, je trouvais que ça a envoyé un bon message. Et puis, sa modestie a fait que je me suis dit, ben, vu sa bravoure, de toute manière, à un moment donné, on va encore en parler et il va être mis en avant. Et puis finalement, les jours sont passés, on n'a jamais parlé de lui. Donc, ça s'est arrêté à une petite interview de quelques minutes à la fin du journal de France 2. Et puis, l'affaire était enterrée. Et du coup, j'appelle Louis-Georges Tin, qui était le président de l'époque, le président du CRAN, et je lui dis, écoute, il faudrait absolument que la bravoure de ce jeune homme, parce qu'il était très jeune, il avait une vingtaine d'années, la Sana Batili, soit reconnue. Et je pense qu'il est important qu'on parle de lui. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à lancer une pétition, et puis Louis-Georges m'a dit, ben pourquoi pas, rédige ton texte, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai rédigé le texte de la pétition en reprenant certains éléments qui avaient été évoqués par Lassana Batili lors de son interview. Alors moi, dans cette pétition, je demandais à ce que Lassana Batili soit d'une part naturalisé français, vu son acte de bravoure, puisqu'il n'était pas français, et qu'il obtienne également la Légion d'honneur, puisque généralement, elle honore la bravoure, elle honore des actes hors du commun. Donc c'est vrai que c'est la récompense la plus connue. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à la Légion d'honneur, tout simplement. Et puis, une heure après, Louis-Georges m'appelle et me dit, mais la pétition s'affole. Alors, je lui dis, comment ? Il me dit, on en est déjà, au bout d'une heure, je crois, on était à 90 000 signataires. Et finalement, la pétition, elle a engrangé 460 000 signataires. Et je pense que beaucoup de Français étaient d'accord avec moi et considéraient que ce jeune homme devait être honoré, puisqu'il avait pris des risques vraiment inconsidérés. Il a mis sa vie en danger pour sauver d'autres personnes qu'il ne connaissait même pas. Voilà. Donc, sous la pression médiatique, le président de l'époque, François Hollande, a appelé Lassana Batili. Et puis, s'en est suivie une médiatisation qui n'avait pas du tout eu lieu juste après la prise d'otage. Donc, c'est à ce moment-là, c'est la pétition qui a relancé l'événement. Nous avons relancé à plusieurs reprises le gouvernement. Puis en 2020, lorsque Emmanuel Macron est devenu président, j'ai voulu relancer cette demande. Nous n'avons pas obtenu gain de cause. J'ai rencontré par hasard M. Castaner, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. C'était lors d'une commémoration de la prise d'otage de la porte de Vincennes. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi Lassana Batili n'avait pas été honoré. Surtout qu'entre-temps, il y avait eu les trois Américains qui avaient permis de déjouer l'attentat du Thalys et qui avaient obtenu la nationalité française et la Légion d'honneur quelques jours, 48 heures, je pense, après. Donc, je ne comprenais pas ce deux poids, deux mesures. Et lui m'a dit, franchement, de toute manière, ça m'étonnerait bien qu'il obtienne la Légion d'honneur. On l'a naturalisé et on considère que c'est assez. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que Lassana Batili a été récompensé aux États-Unis. Il a eu la médaille du courage par les Américains. Par contre, dans le pays dans lequel les faits ont eu lieu, il n'a obtenu aucune récompense. Il n'a pas été honoré. Moi, j'ai rencontré Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France de Montpellier. C'était en 2021. Et donc, je lui ai demandé s'il était possible de le rencontrer pour lui parler d'un certain nombre de sujets, dont la Légion d'honneur de Lassana Batili et également Didi, puisqu'il y avait, j'ai lancé une pétition pour Didi, qui est intervenu au Bataclan. Didi, en fait, était le responsable de la sécurité du Bataclan. Et au moment des faits, il est intervenu pour évacuer une partie des personnes qui se trouvaient au Bataclan. Donc, on considérait que cette personne également méritait véritablement la Légion d'honneur. C'est ce pourquoi la Légion d'honneur a été conçue, c'est pour ce type d'acte.
Je m'appelle Didi, je suis né en Algérie, en petite Kabylie exactement, j'ai 43 ans. Le 13 novembre, j'étais donc devant la salle quand les terroristes ont commencé à tirer sur le Bataclan Café. Dès qu'ils ont commencé à tirer, j'ai vu qu'ils arrivaient très rapidement sur l'entrée du Bataclan. Et donc là, j'avais plus qu'une fraction de seconde C'est vraiment l'instinct qui parle. Donc j'avais deux solutions, soit partir à l'opposé direction République, soit rentrer à l'intérieur, essayer de faire quelque chose. Donc, puisqu'il était quoi, même pas 10 secondes de moi. Donc je suis rentré à l'intérieur, j'ai fait rentrer tous ceux qui étaient dans le hall. Ceux du vestiaire sont réfugiés dans le vestiaire. Et ceux du hall, je les ai fait rentrer à l'intérieur. Et puis j'ai commencé à ouvrir les portes de sortie de secours des toilettes pour évacuer les spectateurs, alors que les assaillants étaient, les terroristes étaient juste derrière moi. Donc une première vague est sortie par là. Je suis rentré à l'intérieur de la salle en pensant que je pouvais ouvrir la sortie de secours des loges. Malheureusement, à ce moment-là, les terroristes étaient déjà dans la salle. Donc moi-même, je me suis retrouvé bloqué dans la salle. J'ai dû m'allonger dans la fosse. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident parce que tout se chamboule. On se dit, ça, je suis reparti à l'intérieur, je me suis remis dans cette folie. Et donc là, tout se chamboule. J'ai mon talk qui sonne, le régisseur m'appelle dessus, Didi pour Cyril. Je l'éteins. Les terroristes commencent à parler, à dire qu'ils étaient là pour venger leur frère en Syrie, qu'ils étaient là à cause de notre président. Donc là, j'ai compris que de toute façon, ils étaient là pour faire le plus de victimes possible. Donc moi, mon objectif, c'était toujours le même. Les gens qui étaient autour de moi avaient compris avec le talkie que j'étais quelqu'un du staff. Donc je leur ai dit surtout de pas faire de bruit. Je voulais attendre le bon moment pour aller là où je voulais aller dès le début, en fait, faire sortir les gens dans la sortie de secours des loges. Les terroristes n'ont pas fait attention à cette sortie quand ils étaient à l'intérieur. Donc dès qu'ils ont commencé à recharger et à parler entre eux, je ne sais pas de quoi, là je me suis levé, j'ai refait sortir une grosse vague par les sorties de secours des loges. C'est à ce moment-là ensuite qu'ils ont mis un terroriste sur la scène pour bloquer du coup cet accès-là aussi. Et le commissaire ensuite est rentré juste derrière cette évacuation que j'ai faite et a touché le terroriste qui était sur scène. Et là, il l'a neutralisé et ensuite il s'est fait exploser. Ensuite, moi, j'ai mis pas mal de gens dans une résidence étudiante. Une étudiante m'a ouvert la résidence qui était dans le passage Saint-Pierre-Amelot. J'ai pu réfugier pas mal de blessés, pas mal de gens dans cette résidence étudiante parce que, malheureusement, les terroristes étaient à l'étage et tirés par l'étage à la Kalachnikov dans ce passage. Donc moi, connaissant par cœur la salle, ça m'a permis aussi de faire ces actions-là sans même, on va dire, y penser. C'était instinctif. Et jusqu'à l'arrivée des unités. Puis ensuite, on connaît la suite. J'ai été exposé 3-4 fois directement. J'ai pas eu de séquelles physiques, ce qui est un miracle. Après, les séquelles, on va dire, intérieures, psychologiques, c'est parfois aussi dur. Mais non, ça va, ça a été avec le temps. On a pu. Moi, j'étais papa donc juste après, donc ça m'a permis de me focaliser et d'avoir, on va dire, un échappatoire et se refocaliser sur autre chose directement. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me reconstruire très très vite. Maintenant. C'est vrai que c'était pas évident. C'est des choses à laquelle tu vas penser parce que tu vois des morts, tu vois des gens que des blessés. C'était une scène de guerre, donc c'est clair que quand vous voyez des fois, parfois des militaires qui reviennent de scènes de guerre sont choqués alors que c'est leur métier. Hein. À nous en tant que civils, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir de telles scènes d'horreur, mais mais ça va, aujourd'hui ça va. C'est vrai que ça m'a fait plaisir la démarche de Tchaba Bruni, hein, de faire une pétition qui avait eu d'ailleurs énormément de signatures pour la Légion d'honneur. C'est vrai que ça m'avait vraiment touché. Je m'attendais pas à autant de bruit autour. Et la nationalité française, c'était une démarche, il faut bien comprendre, hein, j'ai toujours été... je suis arrivé à l'âge de 6 mois, mes parents travaillaient en France, toute ma famille avait la nationalité française, j'étais le seul à pas avoir fait encore la démarche. Juste la naturalisation, elle était en cours, et c'est vrai qu'il y a eu ces événements-là qui ont fait accélérer, on va dire, la procédure. Après, j'ai été quand même décoré pour au ministère de l'Intérieur avec M. Cazeneuve. Ils m'ont remis la plus haute distinction du ministère de l'Intérieur, la médaille d'or de la sécurité intérieure. C'est vrai que ils m'ont fait une belle réception aussi au Place Beauvau, ça m'a fait plaisir. Il y avait des gens de ma famille, il y avait des gens que j'avais aidés aussi, qui étaient là, il y avait pas mal de monde. C'est vrai que ça m'avait fait vraiment plaisir. J'ai quand même une très belle distinction qui est, je pense, même plus ciblée et plus significative à mes yeux, pratiquement, que la Légion d'honneur pour moi, parce qu'elle a une signification bien claire. La Légion d'honneur, pour ne pas dénigrer non plus cette distinction, mais bon, en fait, c'est un peu tout le monde qui peut avoir la Légion d'honneur aujourd'hui. Hein. Vous avez, ça peut être un artiste comme quelqu'un qui a... Voilà, bon, bref, ça, c'est... Bien entendu, demain, on vous remet la Légion d'honneur, ça fait toujours plaisir, mais voilà, j'en veux à personne de ne pas avoir la Légion d'honneur. Hein. Maintenant, je ne vous cache pas que la principale récompense est vraiment... La principale satisfaction, pour moi, c'est quand je rencontre des gens que j'ai pu aider et que je les vois en bonne santé, qui me remercient d'avoir pu les aider ce soir-là. C'est la plus belle des médailles, tout simplement.
C'était « Qui mérite la Légion d'honneur ?», un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Anne Depelchin. Merci au docteur Raphaël Pitti, à son assistante Yannick. Merci à Thiaba Bruni, à Louis-Georges Tain et à Didi. Merci également à Maïlis Kider, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
You let me rise, you let me fall. I won't be worthy of this fight. In your feigned retreat, I'll follow blindly in defeat. Given my heart to you, you know its ways. Yes, in its chambers you have lived. Though lately you have come to realize that for the bullets that you fire, I'm the man. I'm the one. The trigger for your gun. The last. dream.